Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
17h30, en temps universel, le monde aujourd'hui, en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico. Bonsoir. À la une de l'actualité, ce lundi 27 juillet, une édition spéciale sur le Niger après le dernier coup d'État en Afrique de l'Ouest. Notre correspondant à Niamey fera le point sur les derniers développements. La CEDEAO, l'Union africaine, les États-Unis et les Nations unies réclament la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Comment en est-on arrivé à renverser le dernier président élu du Niger et quelles seront les conséquences pour le pays et la sous-région ?
Avec la magistrature du président Bazoum aussi, il a récolté les conséquences de la mauvaise gestion de son prédécesseur.
Moussa Aksa, journaliste à Niamey. Ouverture du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine promet des céréales gratuites à 6 pays africains. Ne manquez pas notre rubrique sport, mais tout d'abord le journal. Au lendemain du coup d'État contre le régime du président nigérien Mohamed Bazoum, des milliers de citoyens sont sortis apporter leur soutien aux nouvelles autorités. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, nous fait le point.
La capitale nigérienne Niamey s'est réveillée sous une pluie battante ce jeudi, lendemain de l'annonce du renversement du régime du président Mohamed Bazoum. Pluie qui n'a pas empêché à des centaines d'habitants pour sortir manifester leur soutien aux nouvelles autorités.
Je suis venu effectivement pour soutenir effectivement le mouvement. C'est un mouvement de renaissance pour le Niger. Parce que vous savez que depuis plus d'une dizaine d'années, le Niger ne connaît que des travers, de corruption, de népotisme et puis d'injustice. Et pour qu'on arrête le tout, nous avons aujourd'hui l'insécurité qui pourrit effectivement une grande partie effectivement du pays, alors que nous avons effectivement le soutien de certaines puissances, dites économiques et militaires. Alors ces puissances, qu'est-ce qu'elles font? Quelle est la plus-value? Donc il était bon effectivement que ces braves gens sortent pour mettre fin à cette pourriture.
Tout de suite, nous attendons de ces militaires de rétablir l'ordre et la sécurité, de chasser toutes les bases militaires étrangères, principalement la base française, de ne pas céder à des pressions intérieures et extérieures, de savoir que le peuple est avec eux et de rétablir la dignité des Nigériens et du peuple nigérien, de mettre le Niger dans ses droits, tout pays sérieux avec lequel on peut signer des accords, des partenariats bilatéraux, gagnant-gagnant, qui est sérieux, on le prenait. Mais les anciens partenaires, nous avons compris, et c'est eux le problème que nous vivons. La France fait partie.
Nous sommes là pour soutenir ces braves militaires qui ont osé, qui ont pris le risque de défendre notre patrie. Parce que nous sommes arrivés à un point où personne n'a espoir que le Niger allait vivre encore.
Oui, nos attentes, c'est que nous appelons la communauté internationale à sortir de son jeu d'hypocrisie, fait de partialité selon les États, pour accompagner de façon indispensable donc les nouvelles autorités en place, afin que nous relevions ensemble les défis prioritaires de la sécurité et de la paix, parce que c'est ça qui est l'essentiel.
Il n'y a pas encore à l'instant de précision sur le chef du groupe de militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. À mi-journée, l'organe a diffusé deux communiqués à la télévision publique, le premier suspendant toute activité de parti politique, le deuxième rappelant une de ses premières décisions, la fermeture des frontières, raison l'armée française ne l'a pas du tout respectée en faisant atterrir un avion militaire tôt ce matin à l'aéroport de Niamey. Il faut aussi signaler que des manifestants ont saccagé le siège du parti du président Mohamed Bazoum et incendié plusieurs véhicules qui étaient stationnés à la devanture. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la France et la Russie exigent la libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum, des membres de son gouvernement et de leurs proches. Les détails avec Nanit Talani.
Le coup d'État au Niger est un nouvel exemple d'une tendance inquiétante au Sahel, a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il a déploré que les changements anticonstitutionnels et successifs de gouvernement ont des effets terribles sur le développement et la vie des populations civiles. Il a réclamé la libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum, condamnant fermement cette attaque contre le gouvernement démocratiquement élu. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dit qu'il s'est personnellement entretenu avec le président Bazoum et lui a dit clairement que les États-Unis le soutiennent résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. L'Union européenne souligne qu'elle est prête à participer aux efforts pour trouver une solution pacifique. La France affirme qu'elle s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l'intégrité des institutions démocratiques nigériennes. La Russie appelle à un dialogue constructif et pacifique pour résoudre toutes les questions litigieuses, exhortant les parties à s'abstenir de recourir à la force.
Comment en est-on arrivé là? Pour en savoir plus, Yacouba Ouédraogo a joint à Niamey Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement.
Depuis 2011, sous la gouvernance de l'ancien président Issoufou, il y a eu pas mal de défis sécuritaires qui n'ont pas trouvé de solution. Donc, avec la magistrature du président Bazoum aussi, il a récolté les conséquences de la mauvaise gestion de son prédécesseur. Et ce qui a abouti à ce coup d'État, notamment certains propos envers les forces de défense.
Qu'est-ce qu'il a dit de mal sur l'armée nigérienne?
C'était au cours d'une interview où il avait dit que les terroristes sont mieux aguerris que les armées du Sahel, notamment celles du Niger. Et ça a frustré beaucoup de soldats. Ça a permis à certains de faire de la propagande contre lui pour le destituer. Et surtout que ces hommes-là disent qu'ils ont perdu beaucoup de l'heure et aussi à la mauvaise gouvernance. Vous avez des scandales, la justice ne fonctionne pas.
Quel genre de scandale, par exemple?
Il y a eu le scandale du ministère de la Défense où des dizaines de milliards ont été détournés par une poignée d'individus et qui sont toujours là, qui reçoivent les marchés. Et ça a frustré l'armée qui avait tant besoin de ce matériel. On lui a envoyé du matériel défectueux, aussi de fausses munitions. Ça, l'armée n'a pas encore pardonné au système qui a été mis en place par Issoufou d'abord, ensuite par son successeur, Mohamed Bazoum.
Les militaires font état du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le nom de son président n'a jamais été cité jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des indices ou des pistes?
Les quelques indices que nous avons, c'est le chef de la garde présidentielle qui était depuis plus de 10 ans chef de la garde présidentielle.
Vous parlez du général Oumarou Tchani?
Oui, je parle du général Tchani, mais aussi vous avez les patrons des forces spéciales, Salo, qui est un officier qui a des états de service exemplaires, qui est respecté de ses hommes et qui a combattu sur tous les théâtres des opérations intérieures. Et vous avez aussi notamment l'ancien chef d'état-major des armées, le général Modi, qui a aussi des états de service exemplaires. Donc si ces trois hommes qui s'avancent, les chefs militaires sont en réunion, un nom va sortir. Mais ce qui est sûr, l'armée nigérienne, dans son ensemble, a consommé déjà le coup d'État.
On sait que la France et les États-Unis sont des partenaires clés du Niger dans la lutte contre le terrorisme. Quelles seraient les implications, par exemple, avec la France?
Les quelques témoignages que nous avons recueillis après ce coup d'État, c'est que l'armée n'est pas du tout favorable à certains, je dis bien certains, n'est pas du tout favorable à cette coopération. Déjà, il y a eu des premiers couacs, comme hier, un avion a atterri, malgré que l'aéroport de Niamey soit fermé. Il y a eu un communiqué de putschistes qui dit que la France a violé l'espace aérien et ils ont mis en garde la France de ne plus répéter ce genre de situation-là.
Est-ce que vous voyez un schéma à la malienne ou à la burkinabé se dessiner au Niger?
Oui, moi je vois plutôt un schéma de ce type-là parce que les militaires nigériens ont travaillé, nous avons été avec eux sur beaucoup de théâtres d'opération. Ils sont prêts à travailler avec certaines puissances, hein, ils le disent ouvertement.
Quelles puissances, par exemple?
Par exemple, les États-Unis. Ils nous ont dit que les États-Unis les habillent de la tête aux pieds. Les Italiens, des fois, ils leur donnent du matériel. L'Allemagne par-ci, mais ils sont réticents par rapport aux soldats français qui pensent qu'ils ne sont pas coopératifs. Moi, je pense qu'on va vers ce scénario à la malienne.
Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey, pour clore ce dossier sur le Niger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe a ouvert aujourd'hui le deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sur fond d'inquiétude après la fin d'un accord qui permettait l'exportation de millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Claire Morin-Gibourg.
Dans son discours d'ouverture, le président russe a déclaré que Moscou pourra, dans les mois qui viennent, livrer gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains dont le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. Vladimir Poutine a aussi mentionné le Zimbabwe, la Somalie et l'Érythrée. Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial, mais aussi sur les livraisons humanitaires. « À titre gracieux », a-t-il déclaré, en affirmant que la Russie était un producteur solide et responsable. Des délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d'État, sont présentes à Saint-Pétersbourg, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La rencontre se termine demain vendredi avec un discours de Vladimir Poutine et une déclaration finale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté les dirigeants africains à exiger des réponses sur la crise céréalière qui a plongé les pays les plus pauvres dans la crise.
Au Soudan, la capitale Khartoum a essuyé des tirs de roquettes. Une base aérienne au nord de la capitale a été attaquée par les paramilitaires. Des habitants ont signalé des tirs d'artillerie lourde et le survol de la capitale par des avions de combat. De violents affrontements ont également eu lieu dans la banlieue nord de Khartoum.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
On parle de foot. Première victoire africaine au mondial féminin, le Nigeria surprend l'Australie.
Oui, les Super Falcons ont battu les Australiennes co-hôtes du mondial 3-2. Ce sont pourtant les Matildas qui ont ouvert le score. Uchenna Kanu, Osinachi Ouale et Aziza Oshoala sont les buteuses côté nigérien. Les Nigérianes, dorénavant en tête de la poule B, affronteront l'Irlande et n'ont plus besoin que d'un match nul pour aller en huitième de finale. L'Australie, qui aurait pu directement se qualifier avec une victoire, doit maintenant absolument s'imposer contre le Canada pour passer en huitième. Pour sa part, le Portugal a décroché le premier succès de son histoire dans un mondial féminin en dominant à Hamilton le Vietnam 2-0 dans le groupe E. Le troisième représentant africain, l'Afrique du Sud, affronte l'Argentine dans le groupe G. Après sa défaite d'entrée, la Zambie, elle, est éliminée.
Yacouba, coup d'arrêt par contre pour les États-Unis et l'Australie.
Tenus en échec par les Pays-Bas un but partout, les États-Unis, double tenant du titre, ont brisé leur série record de 13 victoires consécutives en Coupe du Monde. Après avoir encaissé un but des Néerlandaises à la 17e minute, les Américaines, qui n'avaient pas été menées dans un mondial depuis 2011, sont parvenues à égaliser sur une tête de leur capitaine Lindsay Horan à la 62e minute. Au cours d'une deuxième période plus maîtrisée, les deux équipes comptabilisent désormais 4 points chacune, mais la Team USA conserve la tête du groupe E grâce à une meilleure différence de but, ce qui pourrait lui éviter un potentiel huitième de finale dangereux face à la Suède mardi. Lors de la dernière journée, les États-Unis tenteront de valider leur qualification face au Portugal.
Et enfin, le basketball. L'Afro-Basket Filles Senior commence demain, vendredi.
La compétition va se disputer jusqu'au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. 12 pays dont le Mali y prennent part. Avant de s'envoler pour le Rwanda, le sélectionneur des Aigles Senior Filles du Mali, Oumarou Sidiya Maïga, a indiqué que l'objectif de son équipe est de remporter le trophée.
Nous estimons qu'on a gagné assez de trophées dans les petites catégories. Et si nous faisons la jonction entre toutes ces catégories, normalement on doit avoir une équipe très compétitive en Afrique. L'état d'esprit est bon. On a une équipe sans prex qui peut aller conquérir le titre. On croit qu'on a quand même les arguments. Cependant, tout le monde se prépare. En tout cas, c'est, je crois, une compétition très ouverte et très compétitive.
Oumarou Sidiya Maïga, sélectionneur des Aigles Senior Filles du Mali, au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dilidico, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Au Burkina Faso voisin, le coup d'État au Niger suscite beaucoup de commentaires. Certains pensent que ces coups d'État sont le résultat d'une mauvaise gouvernance, mais d'autres estiment que ces putschs ne profitent qu'à l'armée. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, tout le monde a attendu le dénouement après une journée de confusion jusqu'à la confirmation de la fin du règne de Mohamed Bazoum. Les citoyens lambda ont son opinion sur ce coup de force. Boniface Akbefa, un religieux.
C'est un problème de jeunesse. C'est parce que les jeunes ne comprennent pas en réalité la politique. Voilà, on soutient, peut-être on soutient des gens sans savoir en réalité leur plan réel pour le pays. Et bon, au final, déjà quand ils sont au pouvoir, on voit que bon, et ce n'est pas ce qu'ils disent qu'ils font. Et c'est ça qui amène des révoltes.
Pierre Kabore, étudiant en économie.
En tant que Burkinabé, bon, les coups d'État, ce n'est pas quelque chose qu'on doit cautionner, mais nous voyons que l'Afrique a besoin de ça, voilà, pour pouvoir sortir du sous-développement. On ne cautionne pas, mais si les initiateurs ont les mêmes objectifs, il n'y a pas de problème. Même s'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir et puis foutre la merde, il faut travailler, voilà, pour que la population soit vraiment épanouie, pour que la sécurité revienne dans nos états.
Mais les analystes et observateurs pensent tout le contraire. Les bourrés crépins Zanzé espèrent en communication et sécurité, analyse politique.
C'est quasiment le printemps noir pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique francophone. Et puis les populations sont engagées dans une dynamique de souveraineté que moi je vais mettre souverainiste. Et partant de là, les militaires aujourd'hui, et professionnellement aguerris ou non, amateurs ou pas, ils sont à un moment donné assoiffés et profitent maladroitement de la situation et de cette quête effrénée des populations, de la paix, de la sécurité, pour justifier parfois l'injustifiable. Une armée est là pour assurer l'intégrité du territoire, pour défendre coûte que coûte vaille que vaille des autorités, des chefs militaires comme des chefs politiques qui sont élus à leur place. Il n'appartient pas à un militaire de se lever et de contrecarrer. Beaucoup pensent aujourd'hui que Ariva va disparaître. Beaucoup pensent peut-être que les bases militaires nigériennes vont disparaître. Donc vous avez vu tout de suite maintenant qu'il y a une concertation des chefs militaires nigériens pour sortir un communiqué. Et j'ai été regretté de voir cela. Et je suis sûr et certain que les enjeux seront beaucoup plus chaotiques pour le peuple nigérien que ce qu'ils ne pensent.
En attendant de connaître les nouveaux chefs de la junte au Niger, pour l'heure, les autorités de la transition n'ont fait aucun commentaire sur ce tout dernier coup de force en Afrique de l'Ouest. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. Au Tchad également, la situation au Niger est suivie avec beaucoup d'attention. Pour certains, c'était prévisible parce que le président déchu est un pion de la France. André Kodmajingar, correspondant à N'Djamena, fait le point.
Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que nous connaissons.
Le coup d'État est maintenant consommé. Le porte-parole des putschistes Adamou Abderrahmane mettant fin à la confusion qui a régné toute la journée du mercredi 26 juillet au Niger. Un groupe de 10 officiers a décidé de tourner définitivement la page du président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu. La réaction des Tchadiens dans les rues de N'Djamena au micro de VOA Afrique.
On le voit partout en Afrique, on connaît déjà la cause. Les citoyens, leur besoin n'est pas satisfait, à mon avis. J'ai dit ce qu'ils ont fait, c'est normal.
J'encourage pas les coups d'État, parce que les coups d'État, c'est fait que faire reculer les pays en arrière, ça n'avance pas les pays. Parce que c'est l'argent que les gens gaspillent dans le paiement des armes, c'est quelque chose qu'ils devaient faire autre chose avec.
Pour Abderrahmane Diasnabaye, homme politique et acteur de la transition tchadienne, la place des militaires n'est pas au pouvoir.
Moi, je suis démocrate jusqu'au bout des hommes. Par principe, je ne peux pas soutenir un coup d'État. Mais partout, les militaires veulent s'assurer et prendre le pouvoir par la force, je crois que ce n'est pas leur rôle. Le président Mamad Bazoum a été élu vraiment d'une manière démocratique. Et c'est dommage que le militaire vienne rompre cette procédure démocratique et qui devrait nous contaminer au Tchad, hélas.
Le président du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, Soustem Bernoudji, estime que ce qui est arrivé au président Bazoum est une résultante de ce que les peuples en ont de la politique française en Afrique.
Au jour d'aujourd'hui, Areva exploite l'uranium au Niger. Le Niger sert de base de l'armée française pour intervenir dans le proche Moyen-Orient et même au-delà. Et donc, les gens en sont arrivés à bouder les dirigeants qui servent de pions à la politique occidentale. Et donc, l'armée républicaine, quand ça ne marche pas, l'armée siffle la fin de la répression, c'est ce qui a été fait.
Franz Makingar, membre de l'Observatoire des droits et libertés au Tchad, a un avis totalement opposé, car pour lui, ce coup d'État est une réponse de la France à la démocratie qui était en train de s'installer au Niger.
Il y a eu un transfert pacifique de pouvoir et le Niger est en train de se démocratiser. Vous savez, la France a perdu le Mali, la Guinée, la Centrafrique. Il ne lui reste que le Niger et le Tchad. Donc, il va falloir troubler le pouvoir au Niger pour permettre de contrôler, parce que la présidence au Niger est déjà acquise au peuple et le président obéit aux besoins du peuple et n'obéit pas aux besoins de l'Occident. C'est un message. L'armée nigérienne a fait une sale besogne. Ce n'est pas sa mission, mais et ça, il faut que les officiers généraux du Niger se ressaisissent parce qu'ils veulent retarder l'Afrique.
Après un concert de condamnation de ce tout dernier coup d'État en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, tous à l'unisson, appellent à la libération immédiate du président déchu, André Kodouma Dingar Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad. Au Cameroun, l'inclusion sociale des populations vulnérables et peuples autochtones focalise l'attention des pouvoirs publics et de la société civile. Il est question de mieux impliquer ces deux acteurs dans les programmes et projets du pays. Le comité intersectoriel créé à cet effet s'est réuni à Yaoundé, nous dit notre correspondant Emmanuel Juntap.
La mise en œuvre des politiques sociales d'inclusion des groupes défavorisés s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement camerounais. Mais seules quelques avancées ont été enregistrées à cet effet, notamment en faveur des éleveurs nomades Peul, communément appelés Bororo, l'un des peuples autochtones du Cameroun. Maimouna Oumarou, coordonnatrice de l'association des femmes Bororo, Soura Mama.
Ce qui est important, c'est voir la participation des populations autochtones dans l'aspect intégration sociale, la participation des populations autochtones et communautés locales à la participation politique et à la participation au développement durable. On doit continuer à les faire fréquenter, à les avoir accès aux documents de citoyenneté et aussi les participations dans les prises de décision.
D'après la ministre des Affaires sociales Irène Guéné, le gouvernement souhaite une synergie d'action en faveur de ces Camerounais vulnérables.
Il s'agit de regarder ensemble dans la même direction, avec une préoccupation commune, garantir aux bénéficiaires la qualité et la pérennité des initiatives favorables à leur épanouissement. C'est l'objectif poursuivi par le comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones vulnérables.
Depuis 2009, une association basée à Lolodorf, dans le sud du Cameroun, œuvre pour l'accès à l'éducation des peuples autochtones. Catherine Flore Ambané-Koro, présidente de l'association Sud Bibaba.
Nous mettons beaucoup plus l'accès sur l'éducation. On a un foyer qui abrite les enfants autochtones. Donc chaque année, en fait, c'est 120 enfants. Nous avons aussi nos mamans autour de nous. Il faut mettre l'accent particulier sur l'agriculture et les activités génératrices de revenus.
Pour une meilleure implication des peuples autochtones et populations vulnérables à la prise de décision, certaines activités sont organisées par le réseau des populations autochtones et comités locaux pour la gestion durable de l'écosystème forestier en Afrique centrale. Aïcha Toumanou, secrétaire générale du réseau.
Nous renforçons leurs capacités sur les problèmes du quotidien dans plusieurs domaines, par exemple la gestion du climat, les problèmes environnementaux, le plaidoyer dans le leadership, également sur les droits de l'homme.
also on human rights.
Deux grands groupes de peuples autochtones existent au Cameroun, à savoir les éleveurs nomades Peul et les peuples de forêt subdivisés en quatre communautés. Yaoundé, Emmanuel Juncap, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi dans Washington Forum, nous débattons de l'avenir du maintien de la paix aux quatre coins du globe et plus particulièrement en Afrique. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a appelé récemment à repenser les opérations des casques bleus dans le monde en invoquant leurs limites, surtout après la fin brutale de leur mission au Mali. Face aux tensions géopolitiques ainsi qu'à la présence grandissante de la Chine et de la Russie dans les pays africains, le rôle traditionnel des forces onusiennes est-il en train de s'effriter ? Quelle solution pour un continent en quête d'une paix durable ? Rendez-vous ce jeudi à 19h15.
En République démocratique du Congo, lors de la cérémonie de lancement des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, une conférence de presse a eu lieu. Elle a été animée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, et des membres du Comité international de la francophonie. Le point avec notre envoyé spécial, Roger Muntou.
Le 9e jeu de la francophonie rassemble près de 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. Ils prennent leur envol ce vendredi à Kinshasa. Pour l'État congolais, ce défi est de taille car il est confronté à des difficultés bien connues en raison du chaos et des conflits dans sa partie est, le tout sur fond d'année électorale, on doit le rappeler. Ici, en tout cas, nous nous sommes promenés en ville, partout, pour voir, et ils ont, les Congolais, disent la même chose. Initialement attribués à la RDC en 2019, ces Jeux auraient dû se dérouler en 2021, 4 ans après ceux d'Abidjan. Toutefois, ils ont été reportés à cause de la pandémie de Covid-19, puis à nouveau en 2022 en raison du manque de préparation. En vue d'accueillir dignement les athlètes, le pays a dû investir des dizaines de millions de dollars pour rétablir ou construire de nouvelles installations à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, qui compte plus de 15 millions d'habitants. Ce projet représente un enjeu crucial pour le pays et sa jeunesse. Nous avons d'ailleurs eu l'opportunité de poser cette question au porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui souligne que ces jeux symbolisent l'espoir et la solidarité.
Les dispositions ont été prises, mais écoutez, c'est une compétition. Les meilleurs peuvent peut-être venir du Maroc ou de la Tunisie ou du Liban, mais l'essentiel pour nous, c'est d'avoir offert ce cadre et d'avoir préparé nos athlètes à des victoires présentes et à des victoires futures.
Les autorités mettent en avant l'hospitalité congolaise et les aspects festifs de la ville à Kinshasa, souvent qualifiée de capitale de la rumba et de l'élégance. Jusqu'à peu, les préparatifs semblaient considérablement en retard, laissant planer des doutes sur la tenue des Jeux. En juin, certains pays ont même réduit leur participation, voire annulé leur présence, citant des raisons de sécurité et de santé. Un sujet de débat a également émergé concernant la présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIAF, Louise Mushikiwabo, une ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. La relation tendue entre la RDC et le Rwanda a soulevé des interrogations quant à sa participation à la cérémonie d'ouverture. On doit le rappeler ici, jusqu'au 6 août, les Jeux offriront une série de 9 compétitions sportives et 11 concours culturels. Le volet sportif comprendra notamment le football masculin, moins de 20 ans, le basket féminin, 18 à 25 ans, l'athlétisme, le para-athlétisme, le cyclisme, sur route, les luttes libres et africaines, le judo, tennis, tennis de table. Du côté culturel, les disciplines compétition engloberont la peinture, la sculpture, la photographie, la chanson, la danse, la création numérique, la littérature, les contes et beaucoup plus les marionnettes géantes pour ne pas oublier, et hip-hop. Roger Muntou, VOA Afrique, Kinshasa.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Josèle Morissin, Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.